dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, nous sommes avec notre chroniqueur BD Thibaut de Corta. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Bienvenue. Pour nous présenter, alors d'abord on va recevoir un jeune artiste, auteur, compositeur, interprète qui s'appelle Philippe Saussier et qui nous présente son album Avant l'Aurore. Alors pour commencer, on va entendre une de ses chansons qui était déjà sortie, qui s'appelle Red Rocks, qui était sortie à l'été dernier je crois.
Très bien.
Et on l'appelle, à tout de suite. Ah Voilà, alors nous sommes en ligne avec Philippe Saussier. Bonjour Philippe.
Allô, ça va bien?
Écoute, oui ça va bien. Alors je te présente, j'ai avec moi notre chroniqueur BD, mais qui est aussi un artiste, qui chante et qui compose, Thibaut de Corta.
Donc, bonjour.
Ensemble on va discuter. Tu sais quoi, j'ai aimé ce que j'ai entendu, plusieurs chansons, et moi celle sur ton album, c'est pas celle qui est mise le plus en avant, mais j'en ai aimé une qui s'appelle Trouver l'horizon.
Oui.
Beaucoup. Alors je l'ai choisie pour être aussi parmi les chansons qu'on entendra avec Raphaël. Voilà.
Yes, c'est très fun, c'est vraiment fun, ouais.
Alors, j'ai le droit, je fais comme je veux, c'est mon émission. Alors, j'ai envie de te dire, ça s'appelle Avant l'aurore. Qu'est-ce qu'il y a pour toi avant l'aurore?
Ouais, c'est un peu... c'est un peu toute une aventure, cet album-là. Il y a comme des sujets qui se ressemblent tout au long de l'album. Puis Avant l'aurore, ça veut dire que la soirée n'est pas encore terminée. Oui. C'est pas encore fini. Puis il y a des belles choses qui s'en viennent. Puis c'est un peu ce qui va. Dans le fond, c'est un peu ce qui va se passer tout au long de l'album. On vit comme la soirée, on vit tous les petits thèmes avant l'aurore, tu sais.
Ben oui,
c'est un peu ça le thème de l'album.
Dans le temps qui traîne, tu sais, ce moment qui est comme au-delà de la fatigue et avant que le jour se lève.
Exact, oui, c'est très bien dit, c'est exactement ça.
Tu voulais dire quelque chose, Thibault?
En fait, j'étais curieux de savoir d'où tu venais.
Oui, moi je viens de Terrebonne.
OK.
Qui est juste à côté de Montréal, puis maintenant j'ai déménagé à Montréal, fait que c'est pas mal dans ce coin-là.
Parce que c'est vraiment super bien produit, comme ça a été enregistré où, ça?
Ah, OK.
Il est bien entouré.
Ouais, vraiment. Ça a commencé avec Red Rocks, qui était mon premier single. Je travaille dans un magasin de musique qui s'appelle Garage à musique. C'est à Terrebonne. Puis mon patron, il y a un studio à Terrebonne qui est quand même bien réputé, mais qui n'a pas nécessairement de nom. C'est pas comme si tu pouvais chercher le studio puis le trouver. Il y a beaucoup de contacts, mais il y a des gros noms qui vont là pour enregistrer parce qu'ils connaissent mon patron. Fait que moi, je suis allé enregistrer Red Rocks là-bas. Mais après ça, pour le reste de l'album, je suis allé un peu plus écono, c'est-à-dire que j'ai fait, mettons, ma basse électrique que j'ai enregistrée, j'ai tout fait ça chez moi. Les vocales, soit ça a été chez mon réalisateur Michel Franqueur, au départ, mais les guitares ont été faites là. Puis sinon, le reste de mes vocales, finalement, j'ai fini par aller dans un autre studio qui s'appelle Red Tube à Saint-Jean-sur-Richelieu.
OK.
Fait que ça a été fait ici et là. Mes drums, je les ai enregistrés ailleurs aussi.
Quand tu dis « je les ai enregistrés », c'est toi qui joues ou t'as engagé des musiciens?
Excuse-moi. La basse électrique, c'est moi qui joue.
OK.
Il y a une couple de guitares, les solos de guitare. Si c'est autre Red Rocks puis ce monde de fou, les solos de guitare, c'est moi.
Okay.
Mais sinon, toutes les guitares rythmiques, ça, c'est Michel Franqueur. Ou sinon, j'ai engagé plusieurs musiciens aussi. Okay. Mais basse électrique, vocale, puis quelques solos de guitare, ça se trouve être moi.
Parce que j'ai pensé tout de suite en l'écoutant, ça me fait beaucoup penser à un mélange de Tom Petty, John Mellencamp, puis de Eagles aussi. Je trouvais que ça sonnait un peu comme des Eagles.
Nice! Ouais. Ça, c'est peut-être... Peut-être depuis que je suis avec un groupe de corpo qui s'appelle Deluxe Rodeo, là, j'en jouais pas nécessairement beaucoup de ça, mais à force de jouer en spectacle, peut-être que c'est quelque
chose. Ça laisse des traces.
Ah ouais, ok, ouais. Mais non, mais pour moi, c'est une qualité, parce que je veux dire que ça sonne cohérent, c'est rond. J'ai bien aimé ça aussi.
C'est fin, merci. Mais ouais, c'est vrai. Moi aussi, je trouve que ça sonne rond. Ça, c'est c'est Luc Tellier qui mixe et master l'album. Puis c'est ça, moi, c'est ça que j'aurais... Comme ça, j'aurais décrit le mix, ça sonne rond.
Ouais. Et puis sinon, t'es signé, quoi, ou comment tu fonctionnes?
Je suis quoi?
Est-ce que t'es signé avec une compagnie, un label?
Ah, je suis signé. Je travaille avec Production Dynamite. Donc, ça, c'est Véronique Labbé et Samuel Busque. Mais en fait... je suis coproducteur avec eux.
Okay.
Donc, on prend des décisions à trois, mais j'ai quand même un...
ton mot à dire.
Quand même, définitivement.
Ouais.
En fait, c'est plus comme... je suis assez peut-être dur sur comment je veux que mes choses sonnent et comment je veux travailler. Mais leurs conseils sont extrêmement précieux. Puis, ils m'ont aussi référé beaucoup de gens. T'sais, sans eux, j'aurais pas rencontré Michel Franqueur, j'aurais pas rencontré Richard Turcotte... Jeffrey Piton, puis ils m'ont beaucoup, beaucoup entouré, puis ils m'ont beaucoup aidé.
OK, et comment ça se passe pour toi, je veux dire, au niveau des radios et tout ça?
Au départ, c'est eux qui sont occupés au départ avec Red Rocks, qui est rendu à ce monde de fou. Là, j'ai engagé Taxi Promo pour faire la promotion
c'est
radio.
C'est comme ça qu'on a eu le plaisir de la voir.
OK, oui.
Exactement. salut à Simon Robitaille.
Oui, salut à Simon.
Qui aime beaucoup ses artistes, qui aide beaucoup aussi. Il est formidable.
C'est vrai.
Bravo, c'est bien.
C'est vrai. Alors, je voulais te demander, Philippe, j'ai vu que il y avait des chansons. Alors, la musique, bien sûr, tu t'en occupes complètement, mais que des fois, tu te laissais faire pour recevoir des textes.
Oui, ben à 100% en fait, parce que ce projet-là, en fait, ça s'est fait vite dans un sens là. Moi, j'ai toujours été musicien pour des groupes ou de la corpo ou des artistes, puis là. Avec la pandémie, j'ai comme ben en fait
ben
j'avais
oui.
commencé le projet juste avant la pandémie, mais ça s'est fait finalement pendant la pandémie. Fait que moi, c'est quand même récent pour moi la composition. Puis étant donné que j'ai étudié la musique, ce côté-là, je l'ai, tu sais, je connais la théorie très bien. Par contre, écrire un texte, ça aussi, ça demande ben un peu de l'étude puis du travail. Puis ça, j'ai pas cette expérience-là encore.
Mais t'en as écrit quand même sur l'album. Non?
J'ai écrit le refrain de Avant l'aurore.
D'accord.
Puis j'ai participé à Red Rocks, qui est mon premier single. On s'est assis autour d'une table avec Richard Turcotte puis Jeffrey Piton. Donc j'ai participé là-dessus. Mais autrement c'est pas mal. Évidemment, je donne mes avis. Ça, ce texte-là me colle pas trop. Celui-ci, c'est super, mais peut-être donner plus une touche comme ça. Mais j'ai pas la plume encore, mais j'aimerais
ça va venir. T'as le temps, ça va venir.
Ouais.
Alors on va écouter Trouver l'horizon. Juste un petit mot sur cette chanson avant vite fait,
oui,
avant qu'on l'entende.
Ouais, ben ça c'est la deuxième chanson que j'ai composée en fait. C'était ma belle-sœur qui m'avait écrit un texte comme à je pense 10-11 heures le soir, puis je venais juste de faire Red Rocks, puis là j'avais la piqûre de composer une chanson, fait que j'ai pris ma guitare acoustique, puis j'ai commencé quelque chose, puis le soir même j'étais allé enregistrer quelque chose dans mon ordi, puis c'est pas mal cette version là puis je voulais une chanson en ternaire qu'on peut quasiment valser là-dessus. Ça m'en prenait une sur l'album. Moi, je suis un grand fan des chansons ternaires, donc ça m'en prenait au moins une sur l'album, puis j'ai trouvé la raison.
Ben j'ai beaucoup aimé en tout cas aussi. Donc le choix de la radio, c'est ça.
On écoute. Merci.
Oh,
Et voilà. Et Philippe Saussier, Trouver l'horizon. Merci, Philippe.
Merci à vous.
Alors, dans ta vie, avant de te lancer en solo, parce que c'est ce que j'expliquais un petit peu à Thibaut hors antenne, tu n'as que 25 ans.
Oui.
Or, tu as déjà été pigiste musicien, tu as suivi dans des groupes des artistes quand même super importants. Tu travailles depuis quelques années comme ça, tu as le temps de te faire un album. Ah bon?
Ben, c'est sûr que la pandémie, c'est ça, m'a beaucoup donné du temps pour faire l'album.
Oui, je crois qu'on est un peu tous pareils.
Oui, c'est sûr que j'avais plus beaucoup de contrats pendant ce temps-là, oui. Donc ça m'a permis vraiment de travailler là-dessus.
Est-ce que s'il n'y avait pas eu cet espace de temps, tu te serais fait un album solo, ben, peut-être plus tard?
En fait, je l'aurais fait quand même. Reste à voir. En fait, même, je pense que ça aurait... En fait, je pense que ça aurait quand même sorti en même temps, dans le sens où, là, il a fallu qu'on travaille à distance. Tu sais, le fait d'envoyer recevoir mes textes sans que c'est un peu du ping-pong, renvoie, attends que la réponse de l'autre. Un jour plus tard, répond. L'autre répond, finalement, envoie des trucs à mon réalisateur, fait des trucs de son bord, ça prend un certain temps. Oui. Là, les renvoie. Tu sais, ça n'a pas été tant productif que ça, finalement, alors que quand tu vas chez quelqu'un en face à face, les choses se passent.
Oui, c'est vrai, ça change la donne.
C'est ridicule. Je veux dire, Red Rocks, on l'a écrit en une journée, puis j'ai des chansons que, à cause de la distance, ça m'a pris des mois, finalement, à écrire.
On connaît ça.
Fait que j'aurais trouvé du temps quand même. Fait que ça aurait marché pareil.
D'accord.
Mais toi, la raison pour laquelle tu es venu à Montréal, c'est est-ce que c'est à cause de la musique ou tu avais seulement envie de bouger ou...
J'étudiais à l'UQAM
en
musique, puis à un moment donné, le bus, le métro, ça fait son temps.
Oui.
Puis c'est ça, puis j'étais avec, j'avais une copine aussi, fait qu'on voulait, on voulait emménager ensemble à un moment donné, fait que, Montréal, c'était juste...
T'as réussi à trouver quelque chose d'abordable, là, qui...
Oui, ça fait déjà comme, ça fait 4 ans que je suis à cet appart-là, je l'ai gardé justement, tu sais, effectivement, je pourrais peut-être essayer de trouver quelque chose de mieux côté appartement, mais le prix est quand même alléchant.
Ah
oui.
C'est l'enfer, là.
Les prix, maintenant, c'est la folie.
C'est l'enfer, donc si t'as quelque chose d'à peu près potable il y a 4 ans, reste où tu es, conseil.
Exactement.
Reste où tu es. Dis-moi, tu as participé aussi à deux. Alors, tu suivais des artistes, dont Bobby Bazzini, entre autres, que j'ai vu sur scène.
J'ai remplacé deux soirs. Ouais.
Et tu as travaillé dans deux groupes différents aussi. Tu faisais des tournées.
Ben, je joue encore beaucoup avec, en fait, principalement avec Deluxe Rodeo.
Tu joues toujours avec eux.
Ouais, beaucoup, beaucoup. En fait, c'est principalement mon gagne-pain quand on peut faire des spectacles.
Oui.
D'accord.
Puis donc, c'est principalement ça que je fais, parce que la corpo, c'est quand même c'est un bon salaire à faire là-dedans. Puis
oui.
C'est comme ma deuxième famille. Oui. Et aussi, on se met à composer aussi avec ce band-là. Donc, ça me remplit, je trouve ça génial, tu sais, ça me permet de composer avec d'autres gens, de composer autre chose, on compose en anglais aussi, donc c'est le fun, c'est rafraîchissant d'avoir plusieurs projets.
Oui, mais ça, c'est certain.
Oh, ça tient en forme, quoi.
Oui, absolument. Ouais. Puis, en même temps, ça fait changement, puis en même temps, je veux dire, vu que je débute dans la composition, je fais pas des shows à toutes les semaines, donc ça me permet de bien remplir mes semaines. Puis,
On va dire ça comme ça, c'est que t'as pas de bol, quoi. T'as tombé non plus à une époque... Super, où on peut reprendre les tournées et les spectacles.
Ça, malheureusement, je pense que c'est l'eau de tout le milieu artistique
scène. Ouais. C'est pas que c'est malheureux. Ouais, c'est vraiment...
Les bars, entre autres, là, moi, j'avais l'habitude de jouer dans un bar une fois par mois. Et bien, voilà, c'est terminé.
Ouais.
Mais c'est ça, on a juste hâte que ça reprenne.
Hein, ouais.
Mais juste aussi, tu te dis, tant qu'à y être, de bord, je vais profiter... pour faire des répétitions, mais là, tu veux faire une répète avec un band, l'hôtel a pogné la COVID. Bon, on annule ça, on remet ça à 2 semaines plus tard, 2 semaines plus tard, c'est un autre membre du groupe qui prend la COVID, tout est tout le temps retardé, tu dis pendant ce temps-là, puis finalement, ça reste quand même assez compliqué quand même de se booker des répètes. Hein.
Ben, quand vous l'aurez tous pris, vous pourrez vous booker des répètes, vous serez protégé pour trois mois.
Là, c'est la fin.
Écoute, on espère que c'est la fin parce que ça commence à.
Ben oui, parce que je pense qu'on est rendu à Omicron. Je crois pas qu'il y aurait une autre lettre grecque.
Je ne sais pas. Moi, avec tout ce qui se passe, je ne sais pas.
Non, je
me pose encore des questions. Qu'est-ce que tu as comme projet de faire? Alors, à part faire de la scène, que pour l'instant, c'est pas vraiment possible, hein, donc on te le souhaite, comme on le souhaite à tous les artistes d'ailleurs, de sortir de cet enfer.
Les restaurants aussi et tout ça, ouais.
Qu'est-ce que tu as comme projet?
Oui, ben mettons pour mon projet solo, justement, j'étais censé faire un spectacle ouvert bouteille ce mois-ci. Fait que j'étais censé avoir pratiqué avec mes. J'étais ça en trio.
Oui.
Mais là, vu que ça a été reporté en avril, ben là, je vais recommencer à rebooker des répètes avec mes musiciens. Aussi, j'aimerais ça faire des versions plus acoustiques de mes chansons. Tant qu'à pas pouvoir faire des spectacles, je vais peut-être plus pouvoir les réenregistrer, mais mon guitariste joue du dobro, puis je suis comme un peu tombé en amour avec le dobro, fait que là, j'aimerais bien faire quelque chose un peu plus acoustique, juste pour avoir une variante, tu sais.
Oui.
Puis aussi, ouais, c'est ça. Puis là, en ce moment, en fait, je passe la fin de semaine avec Doris Rodeo, puis on va composer des chansons pour lancer ça aussi, là. Fait que c'est ça. Éventuellement, Doris Rodeo, on va lancer des choses. Moi, je monte mon spectacle en trio, puis j'aimerais ça sortir quelque chose d'acoustique aussi éventuellement.
Oui, et puis peut-être te rapprocher de l'écriture, qui sait?
Ouais, ben
maintenant
ouais,
que t'as tâté un petit peu le terrain, tu peux.
Ouais. Quand je sens une inspiration, j'y vais. L'autre jour, j'en ai écrit une, mais c'était. L'inspiration m'est venue en anglais. Je me suis dit, je vais peut-être
la traduire?
La traduire en français plus tard. Puis finalement, en tout cas, je sais pas trop. Des fois, tu fais des chansons, puis ça mène à rien. Puis des fois, tu écris des chansons. Puis...
C'est pas évident, hein, parce que des fois, on veut dire quelque chose. Et puis, il y a une question de son aussi. Parce qu'en anglais, c'est souvent plus facile, parce qu'il y a des mots qui sonnent. Et c'est pas évident en français des fois de trouver l'équivalent.
De traduire correctement pour avoir la bonne. Ça, c'est
que ce soit musical aussi, tu sais que ça glisse.
Je ne veux pas, depuis que je suis tout jeune, moi, j'écoute tout le temps la musique en anglais. Ça m'a pris longtemps avant de commencer à m'écouter un peu en français. Ben, à part, mettons, les trois accords quand j'étais plus jeune. J'écoute beaucoup du country américain. Fait que c'est tout le temps en anglais. Fait que, effectivement, c'est. Okay. C'est un gros dilemme tout le temps, mais j'aime vraiment ce que ça donne. Ce qui est sur mon album, je trouve ça excellent, les textes qu'on m'a écrits, j'adore ça.
Moi, j'adore la langue française. Donc, puisque tu l'aimes pas assez, je raccroche. Non, c'est pas vrai, c'est parce qu'on arrive au bout de l'entrevue.
Non, mais c'est un gros défi. J'ai réussi à faire un texte en français que j'aime. Ça peut encore plus dire quelque chose.
Tu vas avoir du temps pour travailler là-dessus. On va se quitter, c'est la fin de l'entrevue. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous.
Et puis, on
va partir avec ta chanson aussi que j'avais retenue, qui est Raphaël.
Oui.
J'aime bien. Donc, on se quitte avec Raphaël. Et merci pour ça. Puis, on te souhaite bonne chance pour tout le reste. D'accord?
Merci à vous autres. Merci
au revoir.
Bye-bye.
Le premier soir, après mon show au petit bar, on s'est à peine croisé du regard, on a fini que les quelque part. Avoue qu'il y a quelque chose d'électrique, quelque chose de simple et magnifique. Toi pis moi, c'est clair que ça clique, nos nuits passent toujours tellement vite. Tout ça pour te dire que je te trouve belle, dans ta peau au caramel, viens t'en qu'on brûle la chandelle. Jamais loin, on se date, on se cruise, on se promet rien. On oublie tout, ça fait du bien. Tout nu, on pense plus à demain. Peut-être qu'on se reverra plus. Tu partiras vers l'inconnu. Tu seras plus là la prochaine fois, mais je garderai un souvenir de toi. Tout ça pour te dire que je te trouve belle. Dans ta peau caramel, viens t'encombrer la chandelle. Par les deux bouts. belles, nos fous rires, nos fonds de bouteille, nos soupirs, nos lendemains de veille. Tout ça pour te dire que je te trouve belle, dans ta peau au caramel, viens t'en qu'on brûle la chandelle. Parler debout, tout ça pour te dire que je te trouve belle, dans ta peau au caramel, viens t'en qu'on brûle la chandelle.
Restez avec nous, on revient avec Thibaut de Cortin.
Écoutez Les Faramineux avec Arlette Fara.
Cette fois-ci, c'est la fin.
Oh, écoute le bruit des amis qui se retrouvent. Écoute le bruit de l'adieu. Le bruit de mon nom qui quitte ta voix. Écoute le bruit de ton cœur qui bat pour toi. Écoute le temps qui passe. Écoute le printemps arriver. Écoute ta vie avancer. Le bruit de l'orage qui meurt doucement. Écoute le bruit de l'espoir qui prend son temps. Écoute le bruit de l'amour qui reprend fort. Écoute le bruit de ton cœur. Écoute le temps qui passe, écoute le printemps arriver, écoute ta vie avancer. Oh, écoute, écoute le temps qui passe, écoute le printemps arriver, écoute ta vie avancer.
Alors, on vient d'entendre Étienne Copé qui nous chantait « Écoute ». Et « Écoute », c'est ce que l'on va faire avec Thibaut, avec Thibaut de Corta. Thibaut, tu nous parles d'abord de la BD qui a été faite sur René Lévesque.
Absolument. Alors, écoute, premièrement, c'est une brique. Hein,
Ah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment un gros livre.
Et honnêtement, c'est un bel ouvrage. Là. Maintenant, c'est un ouvrage exigeant, mais j'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Je vais déjà te dire que c'est Marc Tessier qui a produit et scénarisé, en fait. Et même, je crois qu'il a participé à l'enveloppe graphique. D'accord. Je vais te nommer les gens qui sont dedans parce que c'est quand même, faut leur rendre honneur, là. Donc, ceux qui ont fait des bandes dessinées, il y a Louis Rémillard, Jacob Doyon, Alain Chevarier, Blanche, Marc Pajot, Réal Godbout, Jordan Ménard, Jean-Pierre Chansigaud, François Donatien, Christian Quenel, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, Mathieu Massicotte-Quenel, Luc Sanschagrin et Sophie Bédard. Ça, c'est ceux qui ont fait, donc, les récits.
D'accord.
Illustrer les récits. Mais il y a aussi des illustrateurs qui ont fait une page chacun. Il y a Jimmy Beaulieu, Robert Rothenberg, Caro Caron, Jean-Pierre Chansigaud, Pierre Duprat, Forgue, Dewey Guyen, Robert Lapalme, François Lapierre, Raymond Parent, Carlos Santos, Cyrus et Henriette Valium, le regretté Henriette Valium, d'accord. qui a disparu il n'y a pas longtemps.
Parlé.
Elle a le même âge que moi.
Oui.
Non, mais quand même, il faut arrêter de déconner. T'as pas le droit de mourir à 62 ans.
Ça fait peur.
D'ailleurs, t'as pas le droit de mourir en général, mais bon.
Oui.
Et alors, ce qui est fantastique, en fait, dans ce livre-là, c'est que Marc Tessier, c'est quelqu'un quand même, c'est un bosseur, et il s'est beaucoup documenté. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses dans ce livre-là, en fait, sur René Lévesque. Entre autres, que c'est un des premiers, sinon le premier journaliste à avoir été à Dachau, à avoir découvert les camps de concentration.
D'accord.
Il a couvert aussi la guerre de Corée. C'est à lui qu'on doit Hydro-Québec. Parce que c'était pas évident à l'époque, étant donné que bien que le sage soit le père de la Révolution tranquille, c'est quand même, il n'était pas pour la nationalisation de Hydro-Québec. C'est vraiment René Lévesque qui a porté ce cheval de bataille-là jusqu'au bout. C'est assez extraordinaire, en fait. C'est un livre que je suggérerais à l'école, en fait, pour des profs d'histoire.
Oui, pour apprendre l'histoire, parce que moi, je ne l'ai pas encore lu et j'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus sur ce personnage.
Et ça parle de trucs historiques, mais aussi d'anecdotes qui deviennent historiques parce que c'est René Lévesque, évidemment. Et ça parle aussi du fait que c'est un des premiers journalistes, parce que René Lévesque était journaliste. Et il avait une émission qui s'appelait Point de mire, qui est en fait une des premières émissions d'information qui est un peu plus fouillée que les autres, si tu veux.
Mmh.
Et ça, je ne savais pas non plus. Voilà, en gros. Alors, après, si tu veux, moi, j'ai quelques petits bémols, mais rien de très, très grave, là. C'est que, alors comme je t'ai dit, il y a une grosse bibliographie. Mais des fois, on sent un peu le copier-coller. Mais il s'en est expliqué en disant que ce qu'il voulait, il voulait retranscrire la parole, parce qu'il parle au « je », mais au « je » de René Lévesque.
D'accord.
Et alors, il a voulu garder les tournures de langage, la syntaxe, même si elle n'est pas toujours correcte.
Oui, de René Lévesque.
C'est ça, voilà.
D'accord.
Alors, ça, c'est un peu pour le sentiment de copier-coller. Mon deuxième bémol, en fait... Alors... dans les auteurs, c'est pas égal, malheureusement, graphiquement. Mais c'est pas grave, parce que le texte est assez fort en lui-même pour qu'on accepte les propositions graphiques. Alors évidemment, des gens comme, justement, Christian Quesnel ou encore Louis Rémillard ou Réal Godbout, évidemment, ou Jean-Pierre Chansigaud, eux, c'est des pros, là, je dirais. C'est des gens qui maîtrisent leur médium, ils savent ce qu'ils font. Non pas que les autres n'ont pas une certaine maîtrise de base, mais... Je pense qu'en fait, Marc Tessier est allé chercher, parce que je crois qu'il a enseigné à l'Université du Québec en Outaouais. Et donc, je pense qu'il a, parce qu'il y a une, comment t'appelles ça, un cursus de bande dessinée. Et je pense qu'il est allé chercher des élèves.
OK. Donc, à mon avis. Il a demandé de participer
voilà.
à ça.
Alors, ça se peut qu'il y en ait des plus jeunes qui maîtrisent un peu moins le médium. Bon, c'est parce que moi, il faut dire que j'en ai tellement lu de la bande dessinée qu'évidemment, je suis plus difficile.
Ça dans le sang.
Bon. Et ce que je voudrais dire aussi, mon troisième bémol, finalement, mais ça, c'est ni ce livre-là, ni Marc Tessier, mais c'est le monde de la bande dessinée, et c'est pas qu'au Québec, c'est que maintenant, ils font des bouquins, là, il faut que tu sois Rockefeller pour l'acheter. Ça coûte cher, là. Tu sais, je comprends très bien que ce sont des
Parce
éditions
que quand
superbes.
Quand je vois le livre, il est lourd, il est épais.
C'est ça. Alors que moi, que j'ai quand même connu, tu vas me dire qu'on peut pas comparer, c'est vrai, mais quand même, dans ma jeunesse et mon adolescence, la bande dessinée, c'était un truc quand même populaire, pas au sens négatif, populaire dans le sens accessible.
Oui, accessible à tout le monde.
À tout le monde. Mmh. Alors, je veux bien qu'on n'ait plus dans le temps de Tintin, Astérix et tout ça, mais entre les deux, et je veux bien qu'une bande dessinée, la bande dessinée a énormément évolué, à tel point que maintenant les gens se plaisent à appeler ça du roman graphique. J'ai rien contre ça, mais faudrait pas oublier quand même que avant tout la bande dessinée, c'est un truc qui se fait à deux mains, ou en tout cas à une main à tout le moins, et ça se fait devant une feuille blanche, hein, à la base. Bon, après, il y en a qui travaillent à l'ordinateur, patati patata, mais à la base, c'est un truc accessible.
Oui.
C'est pour ça que c'est populaire aussi. Ce qui veut pas dire qu'il y a pas un travail énorme derrière, c'est un travail de galérien, faire de la bande dessinée. Mais donc, moi, mon truc, c'est que j'aimerais qu'un jour, on trouve une formule entre, je veux bien le livre d'art, mais que ça soit accessible aussi.
Oui.
Et puis, un autre truc,
aurait,
si tu veux...
Ça aurait pu être fait, par exemple, en 2 ou 3 tomes.
Voilà, exactement, c'est ça.
Qui fait que ça aurait coûté moins cher.
Exactement, comme les Américains font, d'ailleurs. Oui. Les Américains, ils sortent des trucs, comme Walking Dead, par exemple, ou Watchmen. Ça sortait d'abord en fascicule de 20-30 pages. Et éventuellement, après, ils éditaient le truc en gros livre.
Oui.
Mais voilà, tu sais. Parce que... puis, j'en reviens à l'aspect graphique, enfin illustration, c'est que moi je suis habitué, ça va, j'en ai vu des auteurs, mais moi je pense que ce dont je te parlais, mon bémol, ça peut rebuter certains lecteurs qui ne connaissent pas la bande dessinée. Alors d'accord. Il y a ça aussi à mon avis, mais c'est pas que eux, je vois ce travail-là à faire, d'aller rejoindre le public, parce que c'est évident qu'au Québec, on peut pas comparer ça avec l'Europe où il y a un marché énorme, ou les États-Unis où il y a un marché énorme. Mais quand même, il faut trouver des solutions. Alors, jusqu'à maintenant, je trouve que ça va assez bien, parce que ça s'est développé dans les 20 dernières années, c'est incroyable. Mais ça veut pas dire que c'est terminé. Il y a encore
du travail à faire.
Il y a encore du travail,
oui. Parce que c'est aussi que René Lévesque est un tel personnage que...
Ah oui.
Comment faire pour... Alors, je te dis, à part le faire en 3 ou 4 tomes, c'était...
Bah, en fait,
ça devait être assez compliqué pour retracer toute cette histoire.
Ouais, et puis, mais tu vois, justement, on reparle de plusieurs tomes, c'est que ça aurait mis plus... Parce que là, on lit... En fait, c'est pas vrai, je l'ai pas lu d'une traite, parce que c'est...
C'est conséquent.
Mais en effet, s'ils avaient séparé les chapitres indépendamment, tu serais plus attardé à chaque période.
D'accord, je comprends.
Ouais, parce qu'en fait, ce qu'on comprend là-dedans, là, c'est que premièrement, c'est un gars passionné, désintéressé de l'argent.
C'est mon Dieu.
C'est un gars qui a donné sa vie véritablement. Alors, avec les défauts que tout humain a, évidemment. Mais enfin, c'est un politicien intègre, et je crois que juste pour ça, ce livre-là a sa place.
Vaut la peine d'avoir été absolument, invité.
Absolument. Et ça vaut la peine de le lire et de l'acheter si on peut l'encourager, évidemment. Parce que c'est les éditions Moelle Graphique. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un doyen médecin qui a décidé de se lancer dans l'édition d'art par passion.
Ça, c'est fantastique.
Oui, c'est extraordinaire. Ouais.
Comme quoi, ça peut nous mener la passion. Hein. C'est fabuleux.
Ouais.
Ah ben, en tout cas, j'ai très envie de le lire. Je le ferai aussi. Avant que tu nous parles du deuxième livre. Donc, on va écouter Pierre Flynn. Il nous chante sur la route.
Très bien.
J'ai le goût de désobéir, besoin de disparaître. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai le goût d'un mauvais coup, besoin de danse sauvage. Et tu veux m'emmener avec toi. Tu es si belle dans ta robe noire. Talons aiguilles, une jambe exhibée. Et tu traverses le couloir comme dans un film de série B. Oui, je sais bien que nous n'avons plus 15 ans, mais nous serons braves et innocents comme des adolescents. Des adolescents. J'ai goût de désobéir, besoin de disparaître. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai goût d'un mauvais coup, besoin de temps sauvage. Et tu veux m'emmener avec toi. Je serai Brando et toi Marilyn. Tu étais morte et je t'ai réveillée. Un criminel et une orpheline, brûlant de nuit leurs chemins embrumés. On est seul au monde et plus rien nous retient. Et nous serons calmes et souverains comme des Américains. Sur la route, sur la route, sur la route. Rouler dans la nuit nicotine, pas besoin de grand chose, sandwich et gasoline. Les yeux figés devant, et ta main qui me frôle. Rouler jusqu'à la fin des terres, au lever du soleil, on dansera dans la mer. Rouler sur ce grand continent, encore combien de temps, de Gaspésie jusqu'en Californie. Sur la route, sur la route. Il y a un homme qui pense et qui ne restera pas, et une femme qui ne le veut pas. Qui ne le voit pas. Vois-tu James Dean qui roule en tourmente? Vois-tu le fantôme de Jack Kerouac près du carrefour des femmes violentes? Vois-tu le diable dans sa Cadillac? Oui, je sais bien que nous n'avons plus 15 ans, mais nous serons braves et innocents comme des adolescents. Sur la route,
sur la route, sur la route. Rouler dans la nuit nicotine, pas besoin de grand chose, sandwich et gasoline. Rouler au cœur du rock'n'roll, les yeux figés devant et ta main qui me frôle. Rouler jusqu'à la fin des terres, au lever du soleil, on dansera dans la mer. Rouler sur ce grand continent, encore combien de temps, de Gaspésie jusqu'en Californie. Yeah, 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 yeah. Sur la route, sur la route, sur la route.
Alors maintenant, un deuxième... Merci Pierre Flynn. Alors un deuxième album,
ouais,
qui s'appelle Monaco, Luxe, Crime et Corruption.
Absolument, oui. Alors, tu sais, en fait, moi, ça me touche personnellement, mais tu vas voir que c'est anecdotique. C'est que j'ai une photo chez moi de ma mère à Monte-Carlo avec le chef de la garde du prince Rainer.
Ah, d'accord.
Ouais, ils se connaissaient.
Ah, ben non.
Ben oui. Mais bon, bref.
Belle relation.
Voilà l'anecdote, mais je savais, j'en ai d'autres. Et alors, revenons à ce livre. Et en plus, comme un idiot, je l'ai oublié à la maison, donc faut que il a fallu que j'aille.
Mais tu vas nous parler de ce que tu as lu. Et de
voilà, alors en fait, l'histoire, c'est une enquête. Et d'ailleurs, cette personne donc, qui se nomme Hélène Constanti est la même qui avait fait le scénario il y a 2 ans. Je vous avais parlé d'un bouquin qui s'appelait Sarkozy et Kadhafi.
Oui.
Et donc, c'est ça, c'est la même personne. Et c'est une personne qui a rigoureuse, là, qui fait des enquêtes assez poussées, et elle est accompagnée...
Il fait de la recherche dans ce qu'elle a fait avant d'affirmer.
Ah oui, oui, oui. Non seulement oui. Ça, mais là, elle est allée sur place, carrément.
Ah d'accord.
Et ça commence, en fait, cette histoire-là. D'abord, il faut savoir que Monaco, c'est une drôle d'histoire, Monaco. Hein. Malheureusement, comme j'ai pas le livre, j'ai pas les dates, mais c'est l'ancêtre, en fait, le fondateur de Monaco, c'est un rusé. Qui s'était déguisé en moine pour conquérir l'endroit. Et il faut savoir que c'est un truc qui est grand comme ça, c'est 2 kilomètres carrés.
Ah oui, je connais.
Tu connais, hein? Et au début, il y avait presque personne, et en fait, c'est...
Il y a Rocher, c'est le cas de le dire.
Ouais, c'est le père, je crois, du prince Rainer, en fait, ça a commencé avant ça. À un certain moment donné, je crois que c'est la fin du 19e, je ne veux pas me planter, là, où ils ont commencé à vouloir développer l'aspect touristique. C'est peut-être un peu plus tard aussi, parce que c'est le père de prince Rainer, donc qui s'est associé avec un mec qui s'appelle Pastor. Et il lui a donné, en fait, la carte blanche pour construire. Maintenant, je crois qu'il y a 38 000 habitants, alors qu'à l'époque, il y en avait 1 000 ou 2 000.
C'est tout petit, mais c'est devenu...
Alors, et c'est horrible, parce qu'en fait, la plage est bordée d'immenses buildings que cette famille-là donc, a développé. Et ce qui s'est passé, c'est que, encore là, je ne me rappelle pas en quelle année, mais il n'y a pas tellement longtemps, parce que le procès n'est pas encore terminé. La fille de ce promoteur-là, Hélène Pastor, s'est faite assassiner, mais pas à Monaco. Parce qu'à Monaco, c'est quasiment impossible qu'un crime arrive, parce que c'est l'endroit le plus fliqué au monde. Et il y a des caméras à tous les coins de rue. Mmh. C'est complètement fou. Là. Et parce qu'il y a un tiers des habitants sont des millionnaires. Et,
pour ne pas dire plus.
Il y a 4 milliardaires au moins. Et alors, donc, elle s'est fait assassiner, mais en France. Et tu vois, je ne me rappelle pas le nom de la ville, mais c'est dans le sud de la France. Elle allait visiter son fils qui venait d'avoir un AVC, mais qui était dans des business. Alors, elle ne voulait pas que ça se sache. Et là, c'est à la sortie de l'hôpital, en revenant de voir son fils, donc qui était encore alité, que 2 mecs sont arrivés.
Ils lui ont tiré dessus.
Ils l'ont tiré dessus sur son chauffeur. Et elle a commencé à raconter un peu l'histoire aux policiers, mais elle est morte entre-temps à l'hôpital de ses blessures. Bon. Et alors, ce qu'on comprend, en fait, c'est que c'est son gendre qui n'est pas marié avec sa fille et que c'est probablement la raison pour... Parce qu'il a avoué dans un premier temps qu'il avait engagé quelqu'un pour s'occuper d'elle.
Pour tuer sa belle-mère?
Ouais, mais voilà, ce qu'il a dit au policier, c'est qu'il n'avait pas engagé la personne pour tuer. Il avait dit de régler le problème.
Excuse-moi, mais okay. Ça veut dire dégage,
sauf
quoi.
Depuis, il s'est récusé. Et donc, c'est encore en procès, là, cette histoire-là.
D'accord.
Parce que lui, ce dont il avait peur, c'est que, comme il n'était pas marié, il avait peur d'avoir rien, si tu veux. Parce que
je pense que
sa belle-mère ne l'aimait pas tellement. Alors, il se disait, si je me sépare, je suis cuit.
Et c'est sur cette histoire-là qu'elle a écrit.
Oui, absolument. Mais il y a une autre histoire, mais alors là, malheureusement, comme je n'ai pas le bouquin, je ne m'en rappelle plus, mais il y a une histoire de corruption. Et parce qu'en plus, c'est que Monaco... Monaco, c'est une entreprise de com. Hein? C'est la princesse, machin, tout ça. Et ça se marie entre milliardaires. Avec, hein? Et, mais en fait, il y a de la magouille à Monaco.
S'il y avait que là.
Ouais, non, mais là, c'est assez...
important.
Oui, oui. Et c'est dommage que je me rappelle plus exactement c'est quoi le truc, mais il y a un truc assez incestueux là, entre la famille Reiner et il y a un truc de corruption là, assez flagrant. Et encore là, ça aussi, c'est encore en cours. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau, graphique, c'est extraordinaire. Parce que...
Mais là, sur la bande dessinée, elle la termine bien, l'histoire. Il faut bien qu'il y ait une fin. Non,
ben,
il y a pas
c'est une
fin
en suspens.
Ah, c'est une fin en suspens, d'accord.
Absolument, parce que comme je te dis, parce qu'entre-temps, donc, le gendre s'est récusé. Il a dit non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça, c'est pas moi. Mais ils ont quand même coincé les intermédiaires, dont un officier de police qui était dans le coup.
Devine.
Dont des gens de Marseille. Bon. Alors, mais j'invite à le lire parce que Monaco, c'est toujours... parce que d'ailleurs, le coup de génie de Monaco, c'était le prince Reiner quand il s'est marié avec Grace Kelly.
Oui. Hein,
ça, c'était un coup de com' incroyable. Ça cachait bien tout ce qu'il y avait derrière. Et c'est ce qu'on nous raconte là-dedans. Et on nous raconte...
C'était très romantique.
Très romantique, parce qu'elle était très jolie. Ben, lui, là, ça, c'est le coup de filet. Hein, c'est... Et bon, il a dû l'appâter avec la vie de rêve, en fait. Puis alors, ce qu'on apprend dans ce livre-là aussi, dans l'histoire de Monaco, c'est qu'en fait...
Bien princesse. Parce qu'à une fille.
Ouais, à la Révolution, ça a été le territoire a été saisi, mais une fois que Napoléon a disparu, ça a été la France leur a rendu, et non seulement ça, mais ils ont été dédommagés
financièrement.
Ouais, financièrement.
Façon importante.
Ouais. Okay. Alors c'est assez étonnant, mais en fait c'est peut-être pas si étonnant quand on considère que c'est un paradis fiscal, donc ça doit faire l'affaire de pas mal de gens. Hein, en même temps, bon, mais c'est curieux parce que c'est vraiment placé entre l'Italie et la France, c'est au bord de la mer, mais c'est comme ça, là, un timbre-poste.
Les gens, ce que tu dis à la radio, on ne voit pas le geste que tu fais, mais oui, ça ressemble à un timbre-poste.
Ouais.
Pour ceux qui sont allés à Monaco, c'est vraiment petit.
Et en fait, je pense qu'il faut que... Tu ne peux pas être citoyen monégasque comme ça.
Ah non, bien sûr que
je
non.
Je pense qu'il faut que tes parents soient monégasques. Et que si, par exemple, moi, si je vais là-bas avec ma blonde enceinte et que mon bébé y naît, il ne sera pas monégasque.
D'accord.
Ah non, c'est du sérieux, là.
Ben non, mais on ne prend pas n'importe qui. Excusez-nous, on ne mélange pas les torchons et les serviettes.
Exactement, oui.
Ah non, là-dessus, oui, je veux bien te croire. C'est un truc de fou. Et ça continue ou ça a été habilement stoppé, l'étude, la contrôle
Ah non, il n'y a rien d'arrêté, là, ça continue.
Il n'y a rien d'arrêté,
ah, c'est encore. Mais là, à cause de la pandémie, évidemment...
C'est mis en suspens.
Ben voilà, parce que l'autre affaire, ça s'appelle l'affaire Ribolovlev. C'est ça que ça me revient, mais... Parce qu'il y a encore un truc... Ah, mais c'est ça, c'est encore un truc avec un... Lui, c'est un oligarque, ça me revient, russe, qui s'est retrouvé à coquiner avec le prince de Monaco. Il voulait avoir la nationalité monégasque. Et il faisait du lobby à fond, ça me revient maintenant. Mais c'est, finalement, ça n'a pas passé. Parce qu'il s'est retrouvé coincé dans un truc. Et là, on a vu toute la corruption qu'il y avait.
Du moment, tu regardes les films ou tu lis des livres, tu dis non, mais c'est parce que c'est un film ou ce truc. Mais en fait,
non.
C'est pris dans la vraie vie. Quoi.
Ah, mais je te remercie de me dire ça parce que tu me fais repenser qu'il y a un truc qui me vient en tête ces temps-ci, que je trouve dramatique d'ailleurs, je trouve ça très, très grave. C'est que les gens accordent plus de crédit à des films qu'à la réalité.
Oui. Ah bah oui.
Et ça, c'est très grave.
Oui, là, c'est très grave.
Et ça, c'est ce qu'on vit en ce moment-là.
Oui,
moi, des gens qui viennent
aussi.
Me dire « Ah oui, mais dans 12 Monkeys, Terry Gilliam avait prévu ce qui arrive avec le virus. » Là, j'ai envie de leur dire « Regarde, c'est une histoire. »
Oui, c'est vraiment qu'une histoire.
Ouais, come on.
Ouais. On va partir en musique. Et merci Thibaut. Reste avec moi. Donc, on va partir en musique. On va écouter Radio Losberg, Lucchini et Marco Cagliari.
Oh.
Et on entend d'abord la voix de Marco qui démarre. Là.
Bonjour Québec, nous sommes Radio Losberg. Cette chanson, une chanson douce de l'Italie. Parle d'amour, invite toutes les femmes à danser. Son rythme vient du corps de l'âme. Diabla, di fiamme, scelte, mari, tra di essi, non malati, buoni, ne picati, ne bisogni, ne. Ullele, rullele.
apre da di apre da di femmine scritte male da di essi un ballate con i nebbi cade nebbi sono ieri ulele rulele pizzica pizzica it's wonderful pizzica pizzica very very nice pizzica pizzica you understand come with me in Italy pizzica pizzica c'est très bon pizzica pizzica c'est merveilleux pizzica pizzica c'est fantastique viens avec moi in Italy la rula rulero la rulero la rula 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 qui sta in un groove catetra sanda pelle e na bota inta non te la sa più scurra veloce come un sangue de vene c'è tutto un calore di la gente du su e abballati femmine schiette mare da di essi non ballate buone nebbi calde nebbi sono ieri ulele rulele e abballati femmine schiette mare da di essi non ballate buone nebbi calde nebbi sono ieri ulele rulele pizzica, pizzica, it's wonderful, pizzica, pizzica, very, very nice, pizzica, pizzica, you understand, come with me in Italy, pizzica, pizzica, sei très bon, pizzica, pizzica, sei merveilleux, pizzica, pizzica, sei fantastic, viens avec moi in Italy, la rula rulero, la rulero, la rula, 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 la rula rulero, la rulero, la rula.
Voilà, donc on est à la fin de cette entrevue. Alors, on n'a pas mis le texte de Marco Cagliari qui précède cette chanson, mais on le réécoutera une prochaine fois. C'est parce qu'il fallait qu'on continue à parler des bandes dessinées avec
plus,
toi.
On a oublié de parler de Jacques Villeneuve.
Oui.
Qui s'est lui aussi sauvé à Monaco, enfin son pognon du moins. C'est marrant comment tu peux passer de héros à zéro. Hein?
Oui.
Non mais c'est vrai, parce que Jacques Villeneuve, je me rappelle quand il est revenu triomphant au Forum, c'était le délire total dans le four et tout ça. Et là, ping! En 2012, ça a commencé sa chute.
Ça sera pour une prochaine fois, parce qu'on n'a plus le temps, juste le temps de dire au revoir. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Donc merci à Philippe Saussier pour ton album Avant l'Aurore, ça s'appelle. Merci Thibaut de Corta. C'est toujours intéressant, comme d'habitude. Et puis, je vais me mettre à lire des bandes dessinées. Chaque fois que tu es là, j'en lis un petit peu plus. Merci à Maurice Bolduc pour la technique et les chansons. Puis, on vous souhaite un excellent... Enfin, ce que l'on espère être un excellent week-end. Et puis, on espère promptement que pour les artistes, eh bien, il va y avoir des ouvertures de théâtre, de cinéma, de salles, de restaurants, de cafés, de... Enfin, que le show puisse continuer, même avec les distances, même avec plein de choses, parce que chacun fait le maximum pour ça, et c'est pas tout à fait normal d'être pénalisé, quoi. Chacun fait attention à tout. Oui, c'est une autre histoire, mais chaque fois je le dis parce que j'ai envie. Alors, je vous souhaite un excellent week-end, et on se retrouve, pour ceux qui le veulent bien, la semaine prochaine, même heure, même endroit. Au revoir.
Hasta luego.